Tous les jeudis à 9h et 17h30, la librairie Caractère Social Club à Mont-de-Marsan explore pour vous l'actualité du livre. Rencontre avec les auteurs et les lecteurs, romans, essais, recueils de nouvelles ou de poèmes, sélectionnés et présentés par vos critiques, Aurore Pourny, Anthony Clément et Romain Baxer. Tous les jeudis à 9h et 17h30, mettez-vous à la page avec Radio MDM.
Mais surtout, n'ayez crainte, je vais tous vous défoncer. Enfin, surtout un, le dernier dont on parlait. Bonjour Romain Baxer.
Bonjour.
Oui, allez, salut et au revoir. Mon cher Maël, bonjour Maël, bonjour, qui est avec nous ce matin. Maël, je vais revenir vers vous. On va revenir. Les gens ne comprennent plus rien. Maël, quel âge déjà ?
18 ans, bientôt 19.
Bientôt 19. Maël, qui est en stage à la librairie Caractère Social Club. Et qui côtoie notre ami Romain Baxer, qui hier me disait, alors Maël, on le connaît bien, on va en reparler, il a été stagiaire par chez nous, il a l'insouciance de son âge, et dans l'insouciance, il y a le réveil qui ne sonne pas, enfin bon, peu importe. Et donc, Romain Baxer me disait hier, bon Maël, je l'ai prévenu plusieurs fois, t'as intérêt à être à l'heure, pile poil, 9h ce matin. Donc Romain Baxer, il est à peu près, tant pis pour la rediff, hein, il est à peu près, je pense, 9h10, il est à peu près 9h10, Et qu'avez-vous pour votre défense ?
Mais écoutez, vous avez la malchance d'avoir un bâtiment en construction à côté du studio.
D'accord, donc c'est la faute au ministère de la Justice ?
Eh bien, écoutez, je n'y peux rien, notre cher ministre. Il y avait un camion qui faisait une manœuvre juste en face de moi. J'ai dû attendre les 5 minutes de mon retard.
Bien sûr, alors non content, n'est-ce pas, de laisser sous-entendre que celui que vous avez pris sous votre aile n'est pas très ponctuel. Non content de ça, vous avez complètement oublié vos notes dans votre voiture. Donc vous allez poser un freestyle.
Alors,
qu'est-ce qu'on fait
On pourrait, mais... Maël, si présent, avec son appareil de notes assez important.
Vous voulez profiter de la pause musicale pour redescendre chercher vos...
Ça pourrait être une solution.
D'accord.
Ça pourrait être une solution.
Comme vous voulez, voilà, parce que Maël comptait s'inspirer de vous, parce qu'il voulait découvrir comment vous faisiez pour chroniquer avec brio un bouquin. Cette rubrique va être particulièrement décousue, ça n'est pas très grave. Qu'est-ce que vous voulez faire, Romain ? On attaque bien en tête avec Gustave Flaubert, ou vous voulez repartir ?
On monte l'exemple, écoutez, voilà, ça va être du sans filet.
D'accord.
Hein, dans ce cas-là, voilà, parce que j'ai donc
comment
bien
vous l'écrivez ? Pour avoir du talent, il faut être convaincu qu'on en possède. C'est Gustave Flaubert qui disait ça.
Mais
cet adage vous colle parfaitement.
Mais voilà, donc aujourd'hui, bien Gustave Flaubert n'est pas mort.
C'est bien que vous soyez à la bourre, ça valait le coup.
L'objet de ma chronique, d'attendre. En fait, ce sont deux ouvrages qui viennent de paraître.
Oui.
L'un écrit par un Allemand, Arnold Bricht, intitulé « Cette petite crapule de Maupassant
». J'adore le titre.
Aux éditions du Sonneur.
Il y en a beaucoup des comme ça. Il n'y a pas ce bâtard de Zola ou...
Oh, on pourrait trouver des épithètes fleuries pour tous ces grands auteurs du 19e. Et le second livre que je voulais chroniquer, c'est un livre d'Alexandre Postel, « Un automne de Flaubert ». Paru aux éditions Gallimard.
Alors pourquoi ? Enfin, j'allais dire pourquoi Flaubert ? Flaubert est tôt ou tard, il ressort d'une année à l'autre. Célèbre Flaubert, on n'attend pas un anniversaire quelconque.
Alors bon, c'est vrai que je suis particulièrement attentif à l'actualité Flaubert, si on peut dire, parce que je suis un Flaubertien. Hein, j'ai eu mes premiers émois littéraires avec Gustave Flaubert.
Ça n'apparaît pas au premier abord quand on vous croise. Mais c'est effectivement, Romain Baxer est un Flaubertien.
C'est un compliment, vous voyez, on cache derrière... Derrière une façade, plein d'intériorité, n'est-ce
bien
pas
bien sûr. Alors que vous n'êtes que romantisme et désabusion.
Ben oui, romantisme. Flaubert, bon, c'est un réaliste, Flaubert, quand même. Mais un réaliste teinté de romantisme également.
Oui.
Voilà, bon, donc on peut en parler longtemps. Pour commencer par cette petite crapule de Maupassant, de Arnold Bricht, aux éditions du Sonneur, qui est paru donc en novembre 2019. Pourquoi Maupassant, Flaubert ?
On peut recontextualiser justement la relation entre les deux.
Voilà, le lien. En fait, donc Flaubert, 1821-1880. 1821, d'ailleurs, est une riche année. Hein. Vraiment, je tiens à le préciser, c'est l'année de naissance de Baudelaire également et de Dostoïevski.
Ouais.
Donc 1821, vraiment riche année, naissance donc, de Flaubert.
Vous faites éphéméride en plus, c'est formidable.
Voilà, petit...
Ah, vous allez galérer, je vous l'ai dit. Mais c'est la sanction.
Je reviens sur cette petite crapule de Maupassant. Tout simplement, pourquoi ce titre ? C'est tout simplement une note de Flaubert, plutôt une lettre de Flaubert, qu'il écrit à Laure de Maupassant, la mère donc de Guy de Maupassant. Je cite. Et quel bon bougre, bien que mademoiselle Suzanne Lagier, personne de grande moralité, l'appelle cette petite crapule de Maupassant.
Ouais, mais alors pourquoi ce sobriquet, voilà, ce doux sobriquet?
Donc Maupassant a une vie, disons, une vie qu'il a vraiment occupée à satisfaire ses désirs.
Bah, c'est comme ça l'honore au départ quand même.
Ça l'honore, tout à fait, tout à fait. Sauf que bon, il a pour le coup, si on peut dire, perverti l'union conjugale de beaucoup, beaucoup, beaucoup de couples.
D'accord,
hein, Gustave.
Oui. Vous le dites joliment.
Voilà, okay. Guy de Maupassant, donc ses années de jeunesse. Alors en fait,
il forniquait à foison et des femmes mariées. Voilà, on va le faire court.
Voilà, ah. Lui, il avait un spectre assez large. Hein, voilà,
vous dites spectre. D'accord.
Donc, voilà, une envie assez énorme à satisfaire, Guy de Maupassant, dans vraiment, avec cet ouvrage, donc cette petite crapule de Maupassant, qui est vraiment un ouvrage biographique. C'est vraiment un roman biographique sur Guy de Maupassant. Donc, bien évidemment, on passe sur ses jeunes années. Il a des jeunes années à l'internat religieux. Hein. Mm-hmm. Il va en être exclu assez vite pour preuve d'athéisme. Hein. Il va être surpris par un surveillant alors qu'il est en train tout simplement de dire qu'est-ce que c'est que cette histoire d'hostie. Voilà, bon. Donc il se fait virer donc, de cet internat et il arrive au lycée impérial de Rouen où là il a la chance d'avoir un appartement en colocation, hein, on pourrait dire, avec quand même sous la supervision d'un adulte, hein, mm-hmm. Donc la mère de Guy de Maupassant lui propose cette solution pour continuer ses études. Alors bien sûr, il est enchanté. Là, il va découvrir un peu plus la vie, un peu plus libre que dans cette prison là de l'internat des jésuites, hein, qui est décrit. C'est vraiment terrible d'ailleurs. C'est vraiment une vraie prison. Il va ensuite donc découvrir la vie à Rouen. Il va continuer, en fait, il va être marqué parce que je vous rappelle que Guy de Maupassant, je ne l'ai pas dit, pardon, est né en 1850, hein, et mort en 1893.
Je ne sais pas si vous n'êtes pas mieux sans les fiches. En fait.
Et ne tarissez pas ce flux. Ce flux. Et donc, Guy de Maupassant voilà, découvre la vie dans ce lycée impérial de Rouen. Ensuite, en 1870, il a 20 ans. En 1870, c'est la guerre franco-prussienne, où les Prussiens donc arrivent jusqu'en Normandie. Guy de Maupassant va subir la débâcle. Hein, voilà, il va se retirer au Havre avec les troupes françaises. Voilà, il vivra cet événement de façon assez douloureuse, mm-hmm. hein, parce que les Contes de la Bécasse, un fameux recueil de nouvelles de Guy de Maupassant, prend place en 1870 lors de la débâcle. Ça a fortement marqué cet événement. Ensuite, voilà, on passe sur donc la vie de Maupassant. Donc, comme je vous l'ai dit, très dissolu. Il est d'ailleurs décédé de la syphilis. Hein. Ouais. Le roman biographique s'ouvre sur les derniers jours de Guy de Maupassant, qui est en proie à la folie la plus sombre. Il tente d'ailleurs de s'égorger.
Fait ça, la syphilis ?
Oui, ça a pas l'air beau. Ça attaque les nerfs, hein, principalement. Donc les gens décrépissent, dépérissent, ont des coups de folie. Bon. Donc voilà, le roman s'ouvre sur Guy de Maupassant en pleine crise de syphilis, hein, en pleine crise syphilitique. Peu de temps avant de trépasser. Il est mort donc à 43 ans, assez jeune, hein, Guy de Maupassant, alors que Gustave Flaubert, donc, dans le second roman que je voulais vous chroniquer aujourd'hui, avec Un automne de Flaubert, là, ça se passe en 1875. Là, on est sur les dernières années, hein, de Flaubert, qui est mort, donc, je le rappelle, en 1880. Et donc Flaubert, alors je ne vais pas le présenter, hein, vous connaissez Madame Bovary, L'éducation sentimentale, Salammbô, quelques
les
nouvelles
correspondances
également. Les correspondances,
les plus illustres.
Ah oui, à la Pléiade, vraiment, les lettres de Flaubert, elles sont vraiment magnifiques. Il déroule d'ailleurs son art littéraire de la plus belle des façons. Donc Alexandre Postel dans Un automne de Flaubert, aux éditions Gallimard. Voilà, ça se passe donc en 1975, à l'automne, hein, comme le titre l'indique, à Concarneau. Flaubert, en fait, est ruiné à la fin de sa vie, mm-hmm. hein, sachez-le. Donc il était rentier, bénéficiait des rentes donc issues de ses parents, de ses différentes propriétés. Mais sa nièce, hein, donc la fille de sa sœur, qui est morte assez tôt.
Cette précision est importante.
Voilà, c'est important parce que donc il a éduqué sa nièce, hein, Flaubert en fait. Hein, c'est vraiment voilà.
Pas une métaphore. Hein,
il la considère comme sa fille, hein, voilà, comme sa fille naturelle,
voilà.
Hein, bien sûr. Et donc il a soutenu notamment dans ses déboires financiers. Hein, il s'est marié avec un négociant en bois qui a été ruiné. Et donc il va vendre sa propriété, hein, de Croisset. Il va tout vendre. pour sauver le, voyez, le train de vie de sa nièce. Donc à la fin de sa vie, Flaubert, qui n'a jamais travaillé, eh bien, est complètement voilà, c'est désargenté. Donc il se demande s'il va peut-être solliciter un emploi dans un ministère de fonctionnaire, vous voyez, parce qu'il y a des relations un peu haut placées, pour avoir une rente, hein, comme ça. Donc c'est vraiment voilà, c'est un homme à la fin de sa vie, ruiné, déçu, ses amis morts, Louis Bouillet notamment, et Alfred Le Poitevin, deux de ses grands amis, hein, sont déjà décédés. Donc voilà, c'est vraiment un Flaubert vieillissant, mais en fait qui va être magnifié par justement son art littéraire. Hein. Il va se mettre sur des projets, notamment sur Bouvard et Pécuchet, peut-être. Oui. Voilà, ça c'est la quatrième œuvre de Flaubert, la grande œuvre qu'il n'a pas pu terminer. Hein, il est mort avant. Et dans Bouvard et Pécuchet, il voulait faire en fait l'histoire de la bêtise humaine. Hein. Vraiment, je vous conseille d'aller lire Bouvard et Pécuchet. C'est pas forcément le plus connu de Flaubert.
Non.
Mais là, c'est hilarant. Hein. Vous voyez ces deux copistes là.
On peut faire un parallèle avec plein de choses aujourd'hui.
Oui, oh, bah, la bêtise. Ouf,
c'est universel.
Ça n'a pas de temps.
Donc, du temps, on en a plus beaucoup, mon cher Romain.
Voilà. Bah, écoutez, pour clore cette chronique, voilà, même si Gustave Flaubert, bien sûr, est toujours présent.
Oui.
Et là, on va le citer, hein, parce que l'auteur, vous voyez, doit être comme Dieu dans son œuvre, présent partout, mais visible nulle part. Voilà,
le doigt de Dieu se fourre partout, il disait, ça, d'ailleurs, Flaubert. Non, mais c'est authentique ce que je vous dis.
Mais parlez. sans doute.
Ça arrive en tête de proue de toutes les citations de Flaubert quand vous tapez Flaubert sur. Googlez Flaubert.
Mais très bien, mais je ne connaissais pas cette éminente citation, mais je pourrais joindre à celle que je viens de citer. Hein.
Bien sûr.
Mais vraiment, je répète cette citation de Flaubert sur le style. Voilà, l'auteur doit être comme Dieu dans son œuvre, présent partout, mais visible nulle part. Donc voilà, courez donc lire cette petite crapule de Maupassant, Arne Ulbricht, et donc son parrain littéraire, Flaubert, Alexandre Postel, un automne de Flaubert aux éditions Gallimard.
Écoutez, mon cher Romain, pour quelqu'un qui arrive à la bourre, qui a oublié ses fiches, qui a picolé toute la soirée, hein, si vous avez teasé,
je m'insurge. Non.
Non, c'est pas, vous en êtes pas, vous êtes bien, très très bien.
Super de famille, hein, oui. Sachez-le.
Oui, c'est pas incompatible. C'est même plutôt le contraire. Alors, on va se retrouver. On va aller d'ailleurs aller boire un verre avec toute la modération du monde et écouter de la musique. On se projette vers, ce sera ce samedi, du côté du Potchin Pub. Il y a un groupe parisien qui va débouler accompagné d'un certain Thierry Rousselot, alias Little Mouth, on le connaît dans ce duo.
Ah, oui.
Le musicien landais Montois, exilé à Paris. Il arrive avec plein de copains de Paname, mais aussi de Tel Aviv. Le groupe s'appelle Magone. Je vous recommande ardemment, si vous aimez l'univers Velvet Underground, Syd Barrett, Cure ou Interpol, on va écouter, en plus ça sera au lendemain de la Saint-Valentin, c'est que de l'amour, le titre c'est It's Love, ça passe au Potchin Pub samedi soir, et on se retrouve juste après pour parler d'une autre rockstar, à tout à l'heure.
Faites vos valises. Restez sur MDM.
MDM. Hill. It's love. MDM, MDM, votre radio locale.
Après la Saint-Valentin vendredi, le lendemain ce sera aussi de l'amour. It's Love, le groupe Megon, ils se produisent au Potchine Pub, place Pitrac à Mont-de-Marsan. Ils arrivent pour certains de Tel Aviv, d'autres de Paris. Ils seront accompagnés de Terry Russell, alias Thierry Rousselot, le Montois, et tout cela à partir de 21h. Et ça sera hachement bien. On va parler d'autres éminents musiciens en souhaitant à tous ceux que j'ai cités la même, alors peut-être pas la même carrière parce qu'elle a été courte, mais peut-être la même aura, on dira. On va parler d'un certain Jim Morrison, James Douglas Morrison, avec Maël. Maël, bonjour.
Bonjour.
Et re-bienvenue.
Merci.
Re-re-bienvenue.
C'est un plaisir d'être ici.
Ben oui, t'es passé par chez nous il y a déjà quelques mois, stage.
Oui, oui, oui. En effet, ouais, j'étais là pendant un mois. Ouais.
C'était, il y avait un but précis à l'époque déjà.
Pas vraiment, mais le lieu m'a beaucoup plu.
Oui, le monde des médias.
Mais oui, le monde des médias, de la musique aussi.
D'accord.
Le lieu et les journalistes qui y travaillent sans doute.
Bien évidemment.
Et les nombreux techniciens de valeur.
Il va sans dire. De la musique, on va en parler bien sûr. À la littérature, Jim Morrison est un pied dans chaque camp, on va dire. Ouais. Pourquoi la librairie Caractère? Voilà, tu t'es dit.
J'aime beaucoup l'endroit aussi.
D'accord.
Et puis oui, les livres aussi, j'aime beaucoup ça. Donc,
et les libraires qui y travaillent également.
Ouais.
Jim Morrison, immortel d'une certaine manière, des bouquins en veux-tu, en voilà. Alors moi je croyais avoir à peu près tout lu sur la vie, sur tous les fantasmes même qu'on peut avoir autour de Morrison. T'es venu nous parler d'un livre en particulier autour de...
Oui.
Qui nous parle de quoi précisément?
Jim Morrison ou les portes de la perception, voilà, il s'intitule comme ça. Il a été écrit par Jean-Yves Rezeau, qui a été pendant plusieurs années, qui a travaillé pendant plusieurs années à Elektra Records, qui est un label qui a souvent aidé aux Doors du coup à sortir leur album.
Les quatre albums
ouais,
studio hein,
c'est
sont
ça.
Sur
et il s'est beaucoup penché sur le groupe déjà puisqu'il a sorti déjà deux ouvrages qui s'intitulent Jim Morrison et un autre qui s'appelle Les Doors et donc celui-ci qui a été publié en octobre 2012.
Ah oui, c'est presque récent.
Donc il a été édité par Castor Music, voilà. Et donc on a bien évidemment au tout début le droit à une énorme introduction par l'auteur qui nous explique de A à Z l'histoire des Doors. Donc de la rencontre entre Jim Morrison et Ray Manzarek.
Sur la plage de Venice.
Sur la plage, voilà. Où il décide de lier poésie et musique, parce que Jim Morrison était un grand poète. Et donc ça a donné un énorme engouement qui a créé les Doors qu'on connaît aujourd'hui. Donc là on a affaire à un ouvrage, en fait c'est plus un recueil de textes de Jim Morrison, pas forcément de poésie qu'il a pu écrire.
Il y a de la prose tu veux dire
en fait, en fait c'est des textes où il parle de moments de sa vie qui l'ont marqué.
D'accord.
En réalité, mais on voit quand même la patte de Jim Morrison dans une forme d'écriture un peu imagé, où on est un peu au-dessus, il écrit assez, de manière peu commune, on va dire. Donc c'est assez intéressant à voir. Et puis il y a toujours un côté un peu poésie, ouais. On le voit sur plusieurs de ses phrases ou textes.
Poésie torturée, apocalyptique aussi, un regard sur l'homme. Il y a les influences, on le sait, empreintes de référence aux chamans, à l'Inde, aux Indiens aussi. Enfin, ça part un peu dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans?
Oui, parce que le sous-titre, Jim Morrison, les portes de la perception, qu'est-ce que...
C'est clair que c'est un titre qui est déjà très spirituel. Et puis Jim Morrison est un personnage qui a beaucoup fasciné par ça au final, mais il considérait tout concert qu'il faisait comme une forme de cérémonie en fait, en quelque sorte, où effectivement il revenait souvent à une forme de marque religieuse ou en tout cas très perché, hein. Donc il se présente souvent comme le grand lézard ou comme un chaman ou voilà, il saute sur scène, il est souvent en proie à plusieurs drogues.
Présentez ça comme des cérémonies païennes.
Oui.
Jim Morrison, qu'est-ce qu'il fait quand on a 18 ans, comme toi moi pareil, hein, je suis né Jim Morrison et mort en même temps, je crois. Qu'est-ce qui fait qu'on écoute ou qu'on découvre encore en 2020 Jim Morrison quand on a 18 ans?
J'ai été beaucoup bercé par ça, que ce soit par mes parents, et puis même le rock m'a toujours fasciné, l'histoire du rock. Mmh. Et les Doors, c'est un groupe incontournable. Ça reste les grands classiques parce qu'ils ont, ils ont déjà une marque qui leur est bien appropriée, bien, bien attribuée au final, avec un style de musique qui est très peu conventionnel. Raymond Zarek au clavier, à la basse, qui a un son qui,
ce qu'il aura porté,
ouais. Ah, oui, qui lui est propre, ça c'est une certitude. Et puis même dans la poésie de Jim Morrison, qui est très sombre, très, très lugubre, et puis, puis où on se perd en fait au final. Donc non, c'est un groupe qui m'a beaucoup surpris, beaucoup bluffé souvent, et Jim Morrison en est le plus grand modèle, ça c'est une certitude. Avec voilà, qui avec un esprit qui lui est vraiment propre et c'est
esprit de révolte. Ouais.
Il se considérait pas comme humain d'ailleurs. On le lit hein, dans l'ouvrage. Hein. Il dit souvent qu'il découvre chaque jour de plus en plus de choses sur l'homme. Mm-hmm. Il se considère pas comme humain. Et bon, je pense que ça a à voir aussi avec toutes les drogues qu'il prenait.
Mais... Oui, ça devait, hein, voilà.
Mais ouais, il avait une perception de la vie qui était quand même très, très particulière. Et je pense que c'est ça qui a fait de lui un homme, plutôt fascinant.
Ouais. Les portes de la perception, référence bien sûr à Aldous Huxley. Si les portes de la perception étaient plus largement ouvertes, le monde apparaît à l'homme comme il devrait être, comme il est, c'est-à-dire infini. Je crois que c'est quelque chose comme ça, la phrase, de mémoire.
Là, voilà. Vraiment, bravo Anthony. Hein,
je vais refermer mes portes de la perception.
1974, je crois, parution de Huxley.
Ouais. Eh ben, c'est pas possible, puisqu'il est mort en 71, dit Morrison. Donc, il a lu avant, je crois que c'est 1900, c'est autour de 1900, bien avant.
Ah ouais.
Erreur.
Alors là, c'est pas la journée. Voilà. Erreur de référence.
Ça sent la bonne journée de merde pour vous. Mon cher Maël, le bouquin, on rappelle les références et le titre.
Jim Morrison ou Les Portes de la Perception, ça c'est le titre. Et
son auteur.
Son auteur, ben Jean-Yves Rezeau.
Aux éditions.
Aux éditions Castor Musique.
Merci beaucoup, Maël. Vous voyez, c'est pas compliqué.
Mon merci, cher Romain, de ce bel exemple.
Super vite, on est à la bourre. L'actualité du côté de la librairie Caractère Social. Comment on ressent?
Tout simplement, ce soir, demain soir et après-demain soir, donc nous avons trois événements. Ce soir, nous recevons Aklit Alger, un écrivain franco-algérien. Demain soir, nous recevons... C'est vraiment pas ma matinée, voilà. Ouais. Donc demain soir, nous recevons...
Il y a la page Facebook.
Un hommage à Pushmore, un fameux poète disparu, par l'éditeur Pierre Ménard, qui va venir nous présenter cet hommage, mis en musique par Philippe Bertin notamment. Et samedi soir, pour clore cette semaine, nous aurons un récital piano et poésie, toujours après Jim Morrison, nous aurons là plutôt Baudelaire. Donc un récital par un jeune pianiste d'origine chilienne, voilà, qui est au conservatoire à Paris, et qui par un moyen détourné, complètement incongru, nous arrive à Mont-de-Marsan pour ce récital sur piano, donc autour de Baudelaire. La lecture de Baudelaire, cool. Le voyage de Baudelaire, voilà, pour samedi soir.
Merci beaucoup Romain Baxter.
À 19h à chaque fois, les rendez-vous, entrée libre, bien sûr, on vous attend avec impatience.
Ben voilà, c'est pas compliqué, il est bien, il est mieux, hein. Mais malheureusement, on va rendre en tête. Allez,
voilà.
Merci à vous messieurs, merci Maël et merci Romain, changez rien.
Eh oui,
changez rien.
Mais vous non plus.
Tellement
non plus.
Attachant.
Oh,
allez, tchuss.
L'actualité du livre sur MDM, c'est tous les jeudis à 9h et 17h30. Retrouvez votre sélection littéraire et le programme des animations à la librairie Caractère Social Club sur la page Facebook de Radio MDM.